Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de vouloir vous approcher un petit peu, qu'on soit un peu plus entre professionnels, mais vous pouvez aussi rester là si vous le désirez.
C'est en train de passer. Ça va vous attendre encore un peu? On y va?
Non, c'est parce que comme je suis un peu en décalage avec le sujet, je suis rentré par là. Alors.
Nous allons démarrer. Alors, atelier 1, séquence 1. Deux mots pour vous dire que nous avons bâti ce canevas d'atelier sur trois principes. Atelier 1, sur la notion du concept. Atelier 2, sur la notion du concevoir. Atelier 3, la notion du projet et l'atelier 4 sur la notion de la gestion de la gouvernance. Donc, les interventions que nous aurons au cours de cet atelier 1, dans les trois séquences de cet atelier 1 et de demain, seront plutôt sur la notion des principes et des concepts. Et on essaiera de s'y tenir. On n'a pas vraiment raison de parler de la mise en œuvre, de la gouvernance, de la gestion dans cet atelier. Alors, nous sommes deux chargés de personnes chargées de cet atelier. Moi-même, en tant qu'animateur, je suis l'organisme qualifié directeur du CEU de Pas-de-Calais et je suis accompagné d'Agnès Desmottiers, qui est architecte urbaniste qualifié et chargée des opérations d'habitat, directrice d'études d'habitat et observatoire. Jean-Baptiste de Lille.
Allô.
Sur
oui.
Diapo suivante. Voilà.
Oui.
Alors, sur ces trois séquences, elles ont été intitulées, dans sa première partie aujourd'hui, la place de la représentation de la nature dans les arbitrages des ménages. Demain, la réaction du marché à l'envie de nature, contexte, comparaison internationale. Et pour le dernier, la dernière séquence, habitat, quartier, ville, usage, quel modèle pour quelle échelle ? Voilà. Bien sûr, à l'intérieur des concepts et de cette envie de passer au niveau des principes, nous pourrons établir des liaisons de l'une à l'autre de ces séquences si c'est possible. Notre premier intervenant maintenant, pour cette, quatre intervenants devraient intervenir, mais je vous dis tout de suite, nous avons du mal à trouver Anthony Tchékélian, mais je pense qu'il va bien nous joindre. Claude Fouret, ici présent, nous parlera du parc dans la ville à la ville parc. Emmanuel Coutefeu, en chemise bleue, merci Anthony Tchékélian. Alors, on va passer sur la diapo précédente encore, peut-être, pour que je puisse lire les intitulés des interventions. Voilà. Emmanuel. Encore un petit peu avant. Emmanuel Coutefeu nous parlera. Diapo précédente, s'il vous plaît. Nous parlera de la demande sociale de nature en ville. Annie Camot, l'approche marketing de la demande du logement. Et Anthony Tchékélian, l'agriculture périurbaine et la demande de nature. Alors, quelques règles préalables que l'on vous a demandé déjà transmis. Nos interventions sont prévues, vos interventions sont demandées pour une période d'environ 10 minutes. Alors, on sait bien que c'est un calibrage qui n'a de sens que par rapport à une tenue globale d'un échéancier. Le but est... C'est toi qui tiens l'heure. Bon, ça va être terrible. Alors, nous allons devoir tenir une échéance de 2 heures d'atelier. Je pense qu'à priori, on va tenir nos 2 heures avec le retard du démarrage. Le but est quand même de laisser la place au débat. On arrête à 16h, comme vous voyez, il y a une compression. Donc, le but est de laisser la place au débat et de pouvoir revenir éventuellement sur tel ou tel point du débat que vous n'auriez peut-être pas suffisamment vu. Deuxième point, toutes les interventions seront agrémentées d'un PowerPoint qui éventuellement pourra faire partie de votre mallette d'actes. Ça, c'est une réflexion qu'on ne peut pas vous donner pour maintenant, mais qui sera dans la suite que vous avez à ces journées. Dernier point, quand vous interviendrez, je vous demanderai de vouloir préciser qui vous êtes et en quelle structure vous évoluez avant de poser votre question. En vous demandant de ne pas poser de questions avant d'avoir une micro pour des raisons d'enregistrement. C'est des données basiques. Voilà, nous pouvons passer maintenant au premier intervenant, Claude Fouret, et agrégé d'histoire, chargé de mission de sensibilisation par le rectorat pour spécifiquement les archives du Nord, je crois. Il est enseignant au lycée Bajoali, qui est un des très gros lycées lillois. Il avait longtemps un caractère technique, je crois qu'on peut encore dire technique, oui.
Technique et scientifique.
Technique et scientifique. Et voilà, vous êtes venu avec vous avez transmis un PowerPoint. Je vais vous laisser la parole. Alors, voulez-vous intervenir debout aussi ou...
Bon, je pense que c'est plus agréable d'intervenir assis.
C'est plus agréable.
Parce
bon,
que là, c'est un peu solennel. Alors,
je vous laisse ainsi.
Bon, je suis un peu en décalage avec, j'allais dire...
On n'entend pas ?
Je suis un peu en décalage avec l'université en tant qu'historien et un peu avec l'atelier dans le sens où le titre, c'est « La place de la représentation de la nature dans l'arbitrage, dans les arbitrages des ménages ». On comprend facilement que les arbitrages des ménages, pour un historien, c'est difficile.
Je crois que c'est plus puissant.
Difficile à reconstituer. Par contre, la représentation de la nature, forcément, sous-tend les réalisations qui ont eu lieu. Mon exposé s'appelle « Du parc dans la ville à la ville-parc ». Les chronologique, c'est 1850-1950, ce qu'on appelle des dates larges en histoire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une signification précise. Disons que pendant cette période, il y a trois grands principes unificateurs qui vont présider à la réalisation à la fois de la nature et de la vie. Premier principe unificateur, la balade, la découverte, l'étonnement, c'est le principe de la ville haussmannienne. Je vais tout de suite commenter la diapositive qui est au-dessus de moi. Deuxième principe, le travail et sa dignité. Et troisième principe, le mouvement, la vitesse qui préside à l'extension de la ville. Grosso modo, ce plan, je vais dire, est chronologique. C'est-à-dire qu'on a d'abord la ville haussmannienne en 1850, et on arrive à cette notion de vitesse et de mouvement dans la réalisation de la nature en ville, plutôt vers 1950. Donc ce sera les trois parties, je vais suivre, et je vais vous commenter donc cette diapositive. La ville haussmannienne, la balade, la découverte, ici vous avez un plan de Cambrai, un plan du 19e siècle, la ville a subi pas mal de modifications, comme on peut le voir, à cause du démantèlement, et on devine facilement l'emplacement des anciens remparts par la présence des boulevards classiques de cette haussmannisation. Vous avez ouvert, j'espère qu'on voit bien, le jardin réalisé d'une part, c'est là où vous avez les éléments sombres, et puis le jardin, un autre élément de jardin qui est projeté, qui sera finalement réalisé au début du XXe siècle. Alors on voit l'un à côté de l'autre, le boulevard, la gare, le jardin, et puis les bâtiments rouges que vous voyez à droite ou au-dessus des jardins, ce sont le collège et qui devient ensuite le lycée, ce qui n'est pas non plus un hasard. On va bien passer à la deuxième diapositive. Voilà, alors ici c'est un plan, j'ai pris l'exemple de Cambrai parce que c'est l'une des réalisations du paysagiste Barrier des Champs, bien connu puisque c'est lui qui a réalisé les jardins parisiens, les buts de Chaumont par exemple, et qui a œuvré dans la région du Nord, notamment donc à Cambrai. Dans cette réalisation ici de Barrier des Champs, on retrouve un classique de cette réalisation, c'est-à-dire un tracé des allées, qui est un tracé sinueux, et qui reprend en fait les motifs du tissu, d'un tissu cashmere. Hein. Les allées qui sont une des caractéristiques du jardin au XIXe siècle, puisqu'ils permettent justement cette balade et cette découverte. Troisième diapositive. Voilà, ici, on m'avait demandé, je suis plus particulièrement un historien de la région du Nord, et ici, on est tout près, puisque vous avez le jardin d'Auban, si on le reconnaît ici, le jardin d'Auban, le canal, vous avez ce qui se trouve en haut, c'est-à-dire vers le nord, vous avez le jardin de la citadelle, juste à côté du jardin d'Auban, si on peut voir juste à côté du jardin d'Auban, vous avez ici, ça s'appelle le verger, donc ici vous avez le jardin d'Auban, le canal, le jardin de la citadelle, et il y avait donc, ce qui n'a pas été réalisé, le projet d'un jardin d'acclimatation. Vous avez enfin un bâtiment ici, dans lequel je pense l'université va se tenir, puisque c'est le palais Rameau de Lille, qui est en fait une serre qui était destinée aux expositions horticoles. Ce jardin d'acclimatation, à l'image du jardin parisien, ben, il est tout à fait significatif de la nature en ville. Acclimatation, ça veut dire amener des plantes, acclimater des plantes, acclimater des animaux, puisqu'il y avait le projet d'un jardin zoologique qui a finalement été réalisé dans les jardins de la citadelle, c'est-à-dire démontrer finalement la puissance de l'homme sur la nature, et plus particulièrement la puissance de l'homme blanc sur le monde. Il y a une adéquation entre la création de ces jardins et la période de conquête et d'expansion coloniale, ça paraît évident. De la même façon, les messages d'exaltation de le canal, pour nous, ça représente une difficulté, quelque chose à réhabiliter, alors qu'en fait, c'est un vecteur du développement industriel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, dès la deuxième moitié du 19e siècle, le travail devient un des autres éléments moteurs de la réalisation de la nature en ville. C'est-à-dire que l'industrialisation s'est faite particulièrement dans le Nord grâce à l'apport de main-d'œuvre venant des campagnes. Et il y a une grosse difficulté à fixer la main-d'œuvre, notamment par exemple dans les mines. D'où la volonté de donner une maison, ce sont ces maisons de coron que chacun connaît, et de donner un jardin dans lequel le paysan qui vient de sa campagne va retrouver un univers qui est le sien. Progressivement, les élites s'emparent de ce thème pour faire du jardin potager l'élément d'une moralisation de la classe ouvrière, en même temps que ça permet de fixer la main-d'œuvre. Et il y a l'idée aussi que le travail ouvrier est un travail aliénant puisqu'on n'en voit pas les buts, puisqu'il est très simplifié, alors que dans son jardin, l'ouvrier va au contraire retrouver la dignité du travail et échapper éventuellement à l'alcoolisme et à d'autres parts qui le menacent. Vous avez ici donc, cette idée est ensuite extrapolée au XXe siècle. Vous avez ici une ligne qui représente le Plessis-Robinson, puisque les principales expériences de ce qui vont être les cités-jardins ont été menées dans la région parisienne, sous la direction d'un homme politique qui est Henri Sellier, qui était maire de Suresnes, et qui a été le président des HVM du département de la Seine. Donc on reprenait ici le principe de la cité-jardin, c'est-à-dire le décalage par rapport à la rue, le recul de la maison par rapport à la rue, et le jardin qui se trouve derrière. Ici, on a une vue où il n'y a pas de jardin potager, mais l'idée, c'est bien de donner un jardin potager à l'ouvrier pour le fixer, pour renforcer sa dignité et le moraliser. Si on peut avoir la vue suivante. Voilà, alors ici, c'est un document un peu abstrait qui représente en fait cette plan de masse des 400 maisons qui est une réalisation de l'île sud. Donc ici, la place principale, des immeubles de petite hauteur. Et voilà les maisons qui ont été réalisées. Alors sur ce plan, on tenait le jardin apparu, la maison et le jardin arrière. Et vous remarquerez, ce que tout le monde connaît, tout au moins pour lire, le passage qui se trouve à l'arrière des jardins. Hein, parce que toute la problématique va être là. Autant le jardin Haussmannien est un jardin collectif, autant le jardin de la cité jardin est un jardin individuel, donc se pose le problème individuel et collectif. Comment doit-on partager les choses? Henri Sellier était membre de la SFIO, et bien sûr, ça rentre dans une problématique où le tout collectif serait communiste, où le tout individuel serait plutôt radical socialiste, voire républicain de droit, voire démocrate chrétien, et où la mixité collective individuelle serait propre au projet socialiste. Bon, ça imprègne cette idée du jardin ouvrier et de la cité-jardin, imprègne toutes les années 30 et même les années 40. Vous savez que dans la charte du travail du gouvernement Vichy de 1943, l'idée d'imposer un jardin potager, un jardin ouvrier à tous, eh bien, figurait dans cette charte. Alors, troisième élément, j'espère que j'ai pas passé tout le temps, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, troisième grande tendance, ce serait la vitesse, le mouvement. Bon, tout le monde connaît le manifeste futuriste de Marinetti, publié dans le Figaro en 1906, La beauté de la vitesse. Hein, la beauté de la vitesse. Et là, il y a des réalisations de nature qui sont liées justement à cette expression de la vitesse. Alors toujours dans la région, ici vous avez le grand boulevard de Lille à Rivet et Tourcoing, dans sa physionomie de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous connaissez le grand boulevard, cette chaussée centrale a été considérablement élargie. Hein. Donc ce grand boulevard, il comporte deux chaussées latérales, une voie avec un tramway qu'on appelle à l'américaine, c'est-à-dire en voie spécifique, une chaussée centrale.
centrale donc, qui est dédiée à la vitesse, mais vous remarquerez qu'il y a les promenades. Ici, promenade piétonne, les bancs sont représentés. Vous avez la première piste cyclable de France, une allée cavalière et l'ensemble des arbres. C'est-à-dire que là, la route devient elle-même un jardin. Je crois qu'il y a à peu près 6000 arbres sur tout le parcours du Grand Boulevard. 6000 arbres, c'est tout à fait considérable. Et il y a bien l'idée que la route doit être elle-même une promenade. Ce qui existait aussi dans la réalisation, par exemple, des boulevards qui ont remplacé l'enceinte qui entourait l'île, ce qui est aujourd'hui le périphérique. Alors cet aspect a complètement ou en partie disparu, mais il a existé. Il n'y a pas de contradiction à l'époque entre la présence de l'automobile et la présence du jardin. 6000 arbres, bon, certains peuvent y voir la nef centrale pour la grande chaussée et puis les deux collatéraux de part et d'autre comme une espèce d'église dédiée au prophète. Si je peux avoir une image suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez le plan général de Grand Boulevard ici avec l'île Tourcoing et Roubaix, la branche principale qui se divise ensuite en deux branches. L'idée est bien de restructurer complètement une ville nouvelle qui aurait dû s'appeler LIRT, L-I-R-T, l'île Roubaix-Tourcoing, avec un centre qui serait ici le Croisé-la-Roche, à travers ces axes qui en donneraient, j'allais dire le là, qui en donneraient la grande direction urbanistique, faire une ville ouverte, une ville uniquement de nature, et une nature dans laquelle on se déplace très rapidement, soit à vélo, soit en tramway, soit bien sûr en automobile. Alors ça correspond, cette espèce d'ode au mouvement, ça correspond aussi à l'époque à la réalisation d'équipements sportifs extrêmement nombreux. Bon, les plus importants, c'est l'hippodrome du Croisé-la-Roche, le vélodrome du Croisé-la-Roche qui a été détruit aujourd'hui. Et puis ici, vous avez le parc des sports de Roubaix, qui dans sa version actuelle, qui a été réalisé par un architecte qui s'appelle Jacques Weber. Donc, finalement, ode aussi au mouvement. Il faut faire attention parce que la piste du vélodrome a été ajoutée en fait en 1936. Mais on retrouve cette espèce de géométrie qui est la caractéristique des espaces verts de l'époque. Si on va plus loin, oui, diapositive suivante, s'il vous plaît, si on va plus loin, finalement cet ode en mouvement il correspond aussi à une espèce d'ode, à une espèce de capitalisme qui exalte la circulation et qui prétend que la loi du profit est une loi naturelle. Alors ici vous avez donc du même Jacques Weber qui est l'architecte du parc des sports et qui a été l'architecte urbaniste en fait de Roubaix-Tourcoing entre les deux guerres. Vous avez la vue Benjamin Franklin à Philadelphie, qui est l'un des prototypes de ce qu'on appelle le Park Avenue, c'est-à-dire réaliser une voie rapide dans les espaces verts, avec des bâtiments tout autour qui sont soit des institutions représentatives, soit des musées, soit des immeubles de bureaux. Là, il y a véritablement une exaltation de la circulation et de la nature. Alors, cette expérience est encore étendue, si on peut avoir la diapositive suivante, voilà, ici, puisque le même Jacques Weber que l'on suit a été l'architecte urbaniste de la ville d'Ottawa, le grand plan d'urbanisme de 1950, qui est toujours le plan actuellement en vue. Alors, vous voyez ici, Ottawa, la capitale fédérale qui se trouve au contact entre le Québec au nord et l'Ontario au sud, donc la partie francophone et la partie anglophone. Dès 1903, il y a l'idée de réaliser ici, avec cette zone forestière qui fait 36 000 hectares, le parc de la Gatineau, qui va commencer à être réalisé à partir de 1938. Et Jacques Weber, lui, va ajouter une ceinture verte ici qui fait à peu près 20 000 hectares au sud du côté de l'Ontario qui fait le pendant au parc de la Gatineau. À partir du centre d'Ottawa partent des parkways
par Calvin qui permettent de parcourir ces vastes espaces de nature. Là, on peut se demander s'il n'y a pas une fusion complète de la ville avec la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire au final? C'est que depuis, sur cette longue période d'un siècle, 1850 à 1950, la nature est toujours invoquée comme modèle. Et elle sert toujours de modèle urbain. On voit aussi apparaître dans cette période un modèle qui va s'épanouir après 1950, c'est-à-dire l'idée finalement que la ville doit se construire dans la nature, hein, qu'elle doit être elle-même la nature, avec ce qu'on a connu plus récemment, la crise de ce modèle.
Leurs attentes par rapport au quartier et surtout leurs projets de vie. Alors, pour faire le lien avec l'atelier d'aujourd'hui, on s'est rendu compte, et je n'ai pas beaucoup de choses à vous apporter aujourd'hui, on a très, très peu de choses spontanées sur l'approche de la nature. On s'est rendu compte que c'était très difficile pour eux d'imaginer et d'avoir une vision idéale de la place de la nature. J'étais vraiment très très peu prolixe sur le sujet. Par contre, sur leur logement, sur le quartier est très souvent réduit à un espace très, très étroit autour de leur logement. Là, ils ont des attentes fortes. Et on va retrouver d'ailleurs un certain nombre de choses que M. Coutefeu a présentées jusqu'à présent. Alors, pour la première classe dont je vous ai parlé, donc la classe moyenne salariée, cette classe, donc c'est famille, hein, bon, puisque quand on fait une enquête qualitative, ce sont des entretiens qui sont censés représenter toutes les familles appartenant à cette classe. Donc, les familles de la classe moyenne salariée, ce qu'elles recherchent avant tout, c'est un environnement sécur et calme. Ces deux mots-là reviennent sans arrêt. On veut de la sécurité, on veut du calme. Ces gens-là ne parlent pas de nature, d'espace vert. Non, sécurité et calme. Et ces personnes-là sont très sensibles à tout ce qui peut toucher la dégradation de l'image de marque de leur quartier. Alors ça peut être les jeunes, ça peut être les poncifs, la matière, mais tout ce qui touche à l'image de leur quartier les touche fortement. Et alors ces personnes, elles ont un rapport extrêmement utilitariste avec leur environnement et avec leur logement. C'est-à-dire que par exemple, les familles qui disposent d'une maison locative, en fait elles veulent un petit jardin. Petit, parce que si c'est trop grand, ça leur pose trop de problèmes au niveau d'entretien. Petit et sans contrainte. Donc un quartier sécur, tranquille, valorisant socialement, et puis un logement pratique, sans trop de contraintes au niveau d'entretien. À la deuxième classe, c'était le troisième HLM, cette classe, s'il y avait un seul mot qui résume ses attentes, c'est le mot sécurité. C'est quelque chose qui est prégnant. Le fait de la perte de mobilité, on a peur quand on sort de son logement. Donc, ce qu'on veut, c'est vivre dans un quartier sécur. Ensuite, on parle, c'est bien d'avoir des espaces verts parce qu'en fait, on peut aller se promener. Mais en même temps, on a un petit peu peur parce que si on parle d'espaces verts, ça peut vouloir dire qu'on va se retrouver loin du centre. Et si on est loin du centre, on est loin de la vie. Donc c'est très public dans la façon de s'exprimer et on retrouve un mix entre ce besoin d'équipement, c'est le besoin de commerce, qui sont des équipements centre-ville, puis ce besoin de nature et ce besoin d'espace vert. Et ensuite, bon, en termes de maison, alors là c'est le rêve. Bon, je vous rappelle, on analyse des locataires qui sont en locatif social. Là, le rêve de ces personnes, c'est d'avoir une petite maison de plein pied avec un petit jardinier. Alors, quand ils ont ça, là, c'est le paradis. Alors, imaginez quand cette petite maison avec jardinier, surtout dans un quartier non loin du centre-ville, avec des espaces verts, là, c'est le rêve de toute une vie. Alors, les premiers échanges sociaux, je vous disais tout à l'heure qu'ils ont une approche plus complexe. fait, c'est tout simplement parce que le logement, c'est en fait le dernier rempart contre l'exclusion. Donc, quand on approche ces problématiques-là, on rentre dans des choses vitales pour les familles et c'est très, 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 très difficile. Très souvent, pour ces familles, l'accès au logement, c'était vécu comme le parcours du combattant. C'est très difficile d'avoir et d'obtenir un logement social quand on est pris en charge socialement. Et donc, ça peut amener certains de ces clients à une certaine agressivité. Et quand on les interroge, même quand il s'agit de leur faire parler d'avenir, on a une agressivité. Parce que c'est quelque chose de douloureux et quelque chose de difficile pour eux. Alors, ces locataires se montrent en général peu exigeants. En fait, ils ont énormément de mal à signifier et expliquer des attentes. Pour leur logement, ça va pas bien. Déjà, ils en ont un et c'est beaucoup. Alors, les faire parler sur l'environnement, on a beaucoup de difficultés. Et alors, pour ces gens-là, c'est ce qui est aussi, très important, c'est la notion de sécurité. Alors, c'est d'autant plus particulier que ces gens-là ont un sentiment d'insécurité en eux-mêmes. Et ils ont un langage très, très particulier parce qu'ils projettent en fait, ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, qui est leur propre sentiment d'insécurité. Et alors certains parlent d'insécurité chez leurs voisins, d'autres chez le quartier, et en fait c'est leur propre insécurité qui est plaquée dans le discours. Ce sont des personnes très très difficiles au niveau de l'accompagnement immobilier et accompagnement de jeunes. Or les start-up, eux, s'en fichent. En fait, je vous disais tout à l'heure, ils sont là pour deux ans et demi, ils ont un logement, dans deux ans ils ne sont plus là, donc c'est un rapport très très utilitariste. Hein, donc s'ils ont pris le logement, c'est parce que c'était pratique. Donc s'ils ont une exigence, c'est le stationnement. En fait, pour eux, c'est tant qu'ils peuvent garer leur voiture le soir quand ils rentrent du travail, c'est bien, ils n'ont pas d'autres attentes. Les espaces aériens, on ne parle pas. C'est une. En fait, ils appréhendent plus le quartier en fonction des commerces, des services et du stationnement. C'est une classe qui ne s'exprime pas du tout au niveau de sa tête, mais alors vraiment pas du tout. Alors les familles fidèles, elles sont très très attachées donc à l'image sociale de leur quartier, parce que c'est le garant de l'intégration de la famille et surtout de leurs enfants. Eux ont l'impression d'avoir galéré dans leur vie, pas facile, et ils espèrent que leurs enfants feront mieux qu'eux. En sachant que, bon, très souvent, ils sont dans des quartiers où c'est pas facile et ils ont beaucoup de peur. Et à travers leur discours, il y a la frustration et il y a la peur qui apparaît très souvent. Alors pour eux, ce qui est important, c'est la propreté du quartier. Quand le quartier est propre, ça veut dire que eux sont propres, mais c'est vraiment l'image qu'ils dégagent. Et quand ils parlent, on veut un quartier propre, c'est leur propre image qui est en jeu. Donc quartier propre, quartier sécure. Et s'il y a des espaces verts, il faut qu'ils soient propres. On revient à c'est ce que vous disiez David tout à l'heure. Alors, l'idéal, et ça c'est vraiment l'objectif de toutes ces personnes, comme ils savent très bien que l'accession à la propriété, on n'y arrivera jamais, alors l'objectif c'est d'avoir une maison locative avec jardin. Et alors là, dès qu'ils ont cette maison locative avec jardin, ça devient le pivot de toute leur vie sociale. C'est d'ailleurs là qu'ils organisent on invite les voisins, on invite la famille, parce que la réussite se mesure au fait qu'ils ont obtenu cette maison avec jardin. Alors ces familles sont très, très pragmatiques, en fait elles sont très raisonnables, elles se contentent finalement de beaucoup de choses à partir du moment où elles ont la propreté et la sécurité dans leur quartier. Alors la dernière famille, c'est la famille des délétères par rapport au paiement de leur loyer. Bon, ces personnes-là sont en général très très critiques, parce que ce qui est très curieux, c'est de décoder le discours, parce que si ces familles ne paient pas, c'est qu'elles ont des bonnes raisons de ne pas payer. Donc elles ne paient pas parce que le bailleur a pas fait son travail et que le quartier, de toute façon, est un quartier moche, la ville n'a pas fait son boulot. Donc elles ne paient pas, mais elles ont des bonnes raisons. Et leur argent, en fait, elles le consacrent à beaucoup d'autres choses que leur quartier et que leur logement. Et en général, on est un consommateur et on achète toutes les belles choses que l'on voit à la télé et qui sont beaucoup plus intéressantes que d'investir dans le logement et de s'acquitter en fait, de ses obligations. Là, de la même façon, on a très très peu de choses en termes d'attente de nature et de projection environnement. Là. Voilà de façon très très schématique ce que je peux vous apporter sur cette étude, sachant que moi je trouve qu'il y a des champs d'investigation énormes dans le marketing immobilier, et donc il y a vraiment un bel avenir.
Merci Annie Camo, c'était une présentation très très claire. Bon, il faut toujours se méfier du côté réducteur de la classification, puisque certaines personnes ont certainement la frange, mais elle avait certainement le mérite de nous apporter un éclairage parfaitement clair des différentes classes sociales. Ça, vous avez fait le lien un petit peu avec ce que disait Myriam Coe ce matin, qui est dans cette salle et qui disait un petit peu que la nature, en fait, c'est ceux qui en ont plus besoin, qui sont le moins capables d'exprimer ce besoin, puisqu'ils n'ont pas cette capacité de parole. Vous avez parlé aussi de sécurité intérieure et sécurité psychologique, qui poussait les gens à rechercher une sécurité des lieux, et que d'un autre côté, ensuite, dans votre propos, vous avez parlé de la propreté extérieure qui rejaillissait sur l'intérieur. Donc on voit bien cette dualité qu'il y a entre le psychologique et les espaces extérieurs que nous pouvons offrir. On n'a malheureusement pas le temps de prendre une des interventions. Je vais laisser la parole tout de suite à Anthony Tchekemian. Il lui reste un quart d'heure et cette salle accueillant le retour, normalement tout à l'heure vers 16h, on sera mis dehors si on n'est pas dans les temps. Anthony Tchekemian est doctorant au laboratoire de territoire de l'Institut de géographie Alpine à Grenoble. Il mène actuellement une thèse dont il va nous parler. Et son sujet d'intervention, je vais reprendre mes papiers, l'agriculture périurbaine et la demande de nature. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Ouais, merci, je vous laisse la parole.
Je fais une thèse en géographie, mais plus sur le rôle des acteurs à penser des territoires ruraux, suite à une étude sur l'application de la PAC en France, notamment du deuxième pilier. Donc là, ce sont une recherche que j'ai menée dans le cadre d'un contrat INRAD et ADB, voilà, sur le rôle de l'agriculture périurbaine. Donc alors, si vous pouvez cliquer, on voit le titre, voilà, merci. Donc voilà, je vous présente, un petit peu avant. Enfin, laissez. Donc le rôle des institutions face à la demande de nature, donc par nature, vous comprenez campagne, agriculture, à Grenoble, et donc les enjeux de l'agriculture périurbaine. Voilà. Alors, un sommaire, on verra les différentes natures à Grenoble, la montagne et donc les espaces agricoles périurbains, un petit point de météorologie. Ensuite, en troisième partie, la demande de nature. On verra que c'est un discours général et redondant, donc par les institutions. L'offre qui en est faite, c'est donc un discours influencé par les pratiques. Et un petit point de conclusion. Alors, la nature à Grenoble. Donc tout d'abord les montagnes que l'on peut qualifier de nature originelle, de nature sauvage. Grenoble, donc rapidement, est à 214 mètres d'altitude. Elle est donc constituée d'un environnement montagnard qui est dessiné par les trois massifs, donc Chartreuse, Belledonne et Vercors. Ces massifs alpins influencent fortement donc, le développement culturel, économique et social de Grenoble. Et ainsi, on peut dire qu'à Grenoble, la symbolique de la nature prend d'autant plus d'ampleur que la ville est associée aux montagnes environnantes, mais également, mais également aux espaces agricoles périurbains. Et là, donc, pour faire une différence, on peut parler de nature intentionnelle, de nature cultivée. Donc, agriculture périurbaine grenobloise qui existe depuis longtemps. Toutefois, après les Jeux Olympiques de 68, la croissance de Grenoble a fortement augmenté et a donc menacé l'activité agricole périurbaine. De ce fait, on constate donc une perte d'environ 45% des exploitations depuis 1970, ce qui correspond à une baisse de 13% de la surface agricole utilisée. Alors donc l'agriculture ne pèse pas lourd dans l'économie grenobloise et la population active agricole est en déclin. Alors, toutefois, cette situation déclinante s'oppose à la place accordée à l'agriculture dans l'aménagement de la région urbaine. Donc, en effet, avec cette question de l'aménagement, la place de l'agriculture dans le projet du territoire est reconnue. Alors, suite à une volonté politique, La défense de l'agriculture périurbaine s'est organisée à Grenoble, d'où la création en 1984 de l'ADEC, dont nous avons le représentant, M. Serge Bonnefoy. L'ADEC est donc l'association pour le développement agricole de l'Aigle Grenoble. Et le but de cette association est donc de développer l'agriculture, d'aménager des paysages agricoles pour les citadins, de développer les services en fonction de la demande citadine, c'est-à-dire vente à la ferme, vente directe, de l'agrotourisme et d'autres. Alors, dans ce contexte, il y a donc une collaboration qui s'est faite entre l'ADEC et le syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma directeur. Donc, ceci afin d'intégrer les espaces agricoles et ruraux dans la politique d'aménagement. Alors, la reconstruction de l'agriculture périurbaine au Grenoble tient donc à quatre facteurs, c'est-à-dire la vente directe de produits, grâce à un rapport de produits frais, grâce à un rapport entre agriculteurs, consommateurs et également grande distribution. La réintroduction de la culture agricole dans la société urbaine, par différentes fêtes, ou enfin, d'autres animations dans les fermes. La place de l'agriculture dans la gestion environnementale et paysagère, et bien entendu donc dans le plan urbain. Alors, un point méthodologique. Voilà, donc étude réalisée dans le cadre d'un contrat INRA-DADP. Deux questions de recherche ont aiguillé les entretiens. La première, c'est donc quelle est la demande de nature, donc campagne et agriculture formulée par les citadins. Et la seconde, l'offre apportée par les institutions, donc on verra lesquelles, de l'agglomération grenobloise. Alors, pour cela, j'ai mené des entretiens sur le directif auprès d'institutions de développement et d'aménagement du territoire. Elles, c'est pour leur contribution au débat public sur la périurbanisation, la défense de l'environnement et des intérêts agricoles. Puis des institutions d'animation en nature, révélant la diversité des demandes, des pratiques en termes de nature des habitants d'agglomération. Alors, voyons maintenant la demande de nature portée donc par les institutions d'aménagement du territoire, donc le discours que j'ai qualifié de général et redondant. Donc l'abrégation rurale urbain, c'est le A, est au cœur d'une demande urbaine, citadine. Donc selon les institutions interrogées, les acteurs, les raisons qui incitent les citadins à s'installer en périphérie sont, on vient de le dire, la possibilité de devenir propriétaire d'une maison avec jardin, la recherche d'un meilleur cadre de vie que celui proposé en ville, des terrains moins onéreux qu'en ville, bien que ce point mériterait d'être approfondi, vu en tout cas la perpétuelle montée des prix. Et deux autres, assez, pas très surprenants, mais amusants, le souhait d'une reconnaissance sociale. Et par exemple, à Grenoble, la rive droite du Grésivaudan est considérée comme un lieu de résidence bourgeois. Et le dernier, qui a été souvent évoqué, c'est la nostalgie des moments, des souvenirs passés en campagne. Alors, les attentes des néo-ruraux, c'est-à-dire des citadins qui viennent s'installer en zone rurale, périurbaine, périphérique, elle est de trois ordres. Alors, ils désirent avoir des services comparables à ceux proposés en ville, comme l'installation des réseaux, l'accès à la culture, les services d'accueil, crèches et autres. Être en contact avec la profession agricole pour un échange de savoir-faire, de techniques, mais également donc d'achat de produits frais. Et leur demande, tout explicite, c'est que les agriculteurs gèrent l'espace à leur convenance. Voilà, ensuite, donc, partie B. L'agriculture périurbaine structure le territoire. Alors, l'espace périurbain, en faisant l'objet de pressions foncières, voit sa principale activité économique mise en péril. Et donc, le développement de la croissance urbaine entraîne des transformations du milieu agricole. Et donc, trois types de modifications sont énoncées, peut-être trois scénarios, par les institutions. La première, donc, c'est un espace agricole, rural, interstitiel, en attente. La seconde, c'est un espace agricole qui demeure, mais où la société rurale change. Et le dernier, une disparition progressive des espaces, en tout cas périurbains, les plus proches de l'agglomération. Voilà. Ralentir l'extension de la ville-centre sur la périphérie, les institutions veulent, c'est pas si facile à faire, mais améliorer le cadre de vie en ville et développer les transports en commun, donner un meilleur statut aux agriculteurs pour l'entretien paysager, maintenir l'agriculture en périphérie, céder progressivement des terres agricoles à l'urbanisation. Voilà, donc l'offre de nature maintenant qui est donc proposée Alors, avant tout, les entretiens font apparaître trois plans spatiaux de la nature. Une nature proche, une nature lointaine et une intermédiaire, c'est-à-dire une nature intermédiaire. Alors, nature proche, c'est celle qui est donc en relation avec la ville. Ce sont donc les espaces ruraux, périurbains. La deuxième, donc à l'inverse, nature lointaine, donc véhiculée par les médias, on peut dire même une nature clichée. Elle est imaginée comme exemple donc de toute atteinte humaine, également de contraintes sociales, finalement loin de notre société occidentale. Et une nature intermédiaire, ben, elle comprend les éléments de nature, comme on l'a vu, de nature sauvage. Et c'est une nature où l'homme se reconnaît, ressent son appartenance au milieu. C'est la nature environnante, celle qui structure son paysage. Donc la consommation de nature, tout en étant un milieu de vie, l'espace rural est aussi un espace de loisirs. Deux paradoxes redondants et amusants. C'est donc le premier que les randonneurs évoquent souvent l'envie, le souhait d'être seul, en toute tranquillité, dans un espace de nature, en petit comité donc, dans le milieu naturel, alors même que leur passage, bien entendu, marque la nature, mais également qu'ils y accèdent souvent par le biais d'associations, de clubs, comme le club alpin français. Et de plus, donc, l'envie des hommes de raconter, de se raconter, eh bien, attire les autres, et finalement, donc, précipitant le solitaire dans la foule des amateurs de solitude. Et le second paradoxe, c'est que les activités de nature sont des activités de découverte. Donc, en lien avec le tourisme, et en conséquence, le tourisme est perçu à la fois comme une panacée, mais aussi donc comme un problème pour les habitants des lieux d'accueil. La socialisation par la nature. Alors, on a remarqué que la définition du mot nature diffère selon les lieux de résidence, les adhérents, dont on vient d'en parler. C'est dans les structures d'éducation populaire que les couches moyennes et défavorisées accèdent à des animations de nature. Je pense notamment aux activités qui demandent un matériel onéreux. C'est le cas par exemple du ski. Autre point, c'est que ces institutions d'animation nature sont des lieux de brassage social et qu'elles reconnaissent des vertus pédagogiques des loisirs de nature qui, pour elles, sociabilisent les jeunes à une nature dont ils n'auraient pas forcément une approche innée. Voilà. En conclusion. Alors, on va voir donc les fonctions sociales et les achats de l'agriculture périurbaine. L'étalement de la ville en milieu rural offre aux citadins la possibilité d'accéder à un logement dans un cadre éloigné des contraintes urbaines. Les citadins donc, reconnaissent en agriculture un rôle de gestion, enfin reconnaissent et souhaitent un rôle de gestion et d'aménagement des espaces naturels. Autre chose, c'est que la culture verte constitue l'agriculture dans le paysage périurbain est une fonction, donc on peut la qualifier de passive peut-être, mais qui doit être davantage prise en compte dans les documents d'urbanisme. Et répondre aux demandes de qualité en termes de produits, mais également de territoire, constitue donc le défi de l'agriculture. Et la prise en compte de la demande sociale de nature comme paramètre des systèmes d'exploitation permet donc d'enrichir cette réflexion agricole. L'agriculture est soit mise en cause pour son impact négatif sur l'environnement, soit indemnisée pour ses bienfaits paysagers. Alors, peut-on dans ce cas parler de services et comment les analyser? Il y a une demande exprimée en faveur des services spécifiques. Donc le bénéficiaire, c'est-à-dire le citadin, se détermine par la satisfaction de ses besoins via ses pratiques, qu'elles soient culturelles ou des activités de nature. Les besoins peuvent être satisfaits par plusieurs objets, voire même par plusieurs types de prestations. Souvent en matière d'aménagement paysager, ils le sont par une minorité ou bien par les pouvoirs publics. D'où l'importance de préciser les agents qui expriment la demande. Puis il faut aussi déterminer, je pense, la contrepartie de cette demande. À défaut de quantifier un consentement à payer, il est nécessaire de repérer ce qui est sacrifié, donc est-ce du temps ou une autre utilité. Voilà, merci.
Bien, merci Antoine Chiquillon pour cette analyse complète de petites facettes de la problématique des rapports entre citadins et agriculteurs à Grenoble, mais qu'on reconnaît bien également dans beaucoup de notre cité, et notamment dans la grande métropole des conflits qu'il y a pu avoir entre agriculteurs. À propos de l'organisation sanitaire. Bien, alors écoutez, on va jouer un petit peu gagnant, hein, les ça va être réinvesti dans quelques minutes, mais on a le temps de poser des questions aux quatre intervenants. Je remercie encore pour chacun pour l'activité des interventions sur des thèmes différents et complémentaires. Qui se lance pour une question à Nadia? Oui. Merci de re-rappeler.
Jean-Jacques Bélion, donc c'était dedans. Je me permets donc de relancer un peu le débat, à mon niveau en tout cas. Je voulais savoir si, dans vos expériences successives, vous avez noté qu'en réalité, la perception de la nature par les gens, en fonction des segmentations sociales que vous évoquez, sont largement influencées par l'environnement qu'ils connaissent au quotidien. Je ne suis pas sûr que la question de nature, de l'envie de nature dans la région lilloise soit de même nature que dans la région grenobloise, très concrètement.
Alors, qui commence peut-être médicament.
J'envie de dire simplement oui. Moi, je pense que les personnes ne peuvent parler que de ce qu'elles connaissent. Donc, je pense que, et c'est pas péjoratif, les gens ont très peu d'imagination, et notamment dans le domaine de l'immobilier. Et donc, ils peuvent parler, ils ne peuvent projeter qu'à partir de leurs connaissances. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes appréhensions, les mêmes attentes. Selon que l'on travaille sur la métropole lilloise, et c'est aussi très différent selon les villes, ou si on travaille sur Valenciennes, c'est pas la même chose. Parce que la culture n'est pas la même, parce que le vécu n'est pas le même. Donc je vous répondrai oui, tout à fait.
Alors, moi, dans l'enquête, par rapport à ces histoires de nature, j'avais été aussi frappé. Les questions s'il y avait une segmentation homme-femme, déjà, par rapport, eh bien les femmes sont beaucoup plus sensibles aux aspects de nature, elles en parlent beaucoup plus facilement au téléphone, elles répondent beaucoup plus facilement, et notamment dans les espaces naturels et ruraux, la demande est beaucoup plus féminine que masculine. Ça, j'avais noté dans l'enquête. Et puis aussi, ce qui est assez noté, c'est que c'est bien entendu la demande de nature, elle est très liée aussi à la catégorie sociale, et notamment aux revenus disponibles. Ça, c'est une évidence. Lorsque vous habitez en centre-ville, en immeuble collectif, en général, vous êtes plutôt centre urbain, donc CSP+, et ce sont eux qui sont les plus demandeurs de nature, notamment propriétaire, parce que vous êtes propriétaire. Lorsque vous êtes éventuellement ménage avec des enfants, beaucoup plus fort. Donc le profil en fait de la demande de nature, bah, c'est un urbain actif avec des enfants, ménage, qui habite en logement collectif en centre-ville. Hein. Donc plutôt bobo en fait, pour aller très vite.
Pour revenir directement sur ce que vous venez de dire, moi je dirais que les gens s'auto-censurent naturellement. Et c'est vrai que le critère financier dans l'immobilier, c'est très important, un budget immobilier, c'est très conséquent. Et donc, bah, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'envie, mais l'envie n'est pas explicite et ne devient pas un objet concret. Je pense qu'il y a vraiment un blocage dans l'expression « on ne peut pas, donc on n'en parle pas ». Alors est-ce que c'est vraiment un déni ou un déchet?
J'avais aussi un point qui m'a, dont je n'ai pas évoqué, c'est aussi lorsque vous êtes donc en centre-ville ménage, Lyon, Villeurbanne, vous êtes souvent propriétaire d'une résidence secondaire. Alors ça c'est relativement logement collectif égale résidence secondaire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en pavillonnaire avec une maison avec un jardin, vous n'avez pas de résidence secondaire. Donc, et cette demande est très explicite d'un type, d'un profil avec un revenu élevé.
Nicole Nature, je suis du CNRS, de Paris, et je voulais poser une question, peut-être pas à vous, madame, pas à vous, mais plutôt aux trois autres, c'est-à-dire, je suis quand même frappée par le fait que il y a quand même une certaine assignation dans votre esprit, dans vos définitions, entre nature, fond, on pourrait peut-être se demander mais pourquoi un square n'est pas naturel, pourquoi un parc n'est pas naturel, et qu'est-ce qui fait que l'agriculture périurbaine est naturelle et qu'elle est plus naturelle, surtout si on pense par exemple à la question de la production des nappes phréatiques ou à la question de l'érosion des sols. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte peut-être aussi la raison pour laquelle les gens ne parlent pas de ce qu'est la nature, parce qu'en fait, elle est elle-même quelque chose de complexe dans lequel il y a de la belle nature, mais il y a aussi de la nature qu'on n'a pas très envie de subir, par exemple la pluie tous les jours, etc. Donc, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que vous admettez finalement qu'il y a une sorte de consensus finalement sur espace vert égale nature, campagne égale nature, agriculture égale nature, les soirs sont un peu moins la nature. Voilà. Donc c'est ça qui m'étonne aussi. Et je pense que si les recherches doivent aller dans le sens d'une sorte de réflexion, comme ça a été dit ce matin, une sorte de réflexion sur finalement quelle est la place de la nature dans la ville, je pense que il me semble que c'est très important de repenser aussi les catégories avec lesquelles on parle de la nature.
Oui, merci Nicolas, tu reconnais bien chez le chercheur l'envie d'être très précis dans les définitions. Autant on sait normaliser de la construction, autant enfin, on sait le faire, autant on le fait. Autant peut-être pour la nature, la difficulté, même entre les franges parc et jardin, quelquefois, est-ce qu'il y a une norme permettant de définir les parcs et jardins, mais ensuite, quand vous dites la nature, est-ce l'agriculture avec le taux de pollution qu'elle nous amène? Est-ce qu'on peut encore parler de nature quelquefois pour de tels espaces? On n'a pas pris la précaution peut-être dans ces universités de définir la nature, peut-être ça aurait été un préalable nécessaire d'essayer de voir comment il fallait la définir. Alors voilà, la question est un peu compliquée quand même, mais bon.
Alors là, c'est
plutôt grave.
Là, c'est la véritable question chinoise. La nature, la définition de la nature, c'est effectivement très large. Et quand on interroge, notamment pour regarder un certain nombre de sondages d'opinion, en fait, pour les Français, la nature, c'est la montagne et la mer, essentiellement. C'est-à-dire que la mer ou la montagne ont des images de nature. Par contre, quand on parle d'espace, ruraux, etc., ça ne dit rien en fait aux personnes interrogées. Pour eux, c'est la campagne. La campagne, c'est no man's land en fait. Voilà. Alors, certains disent la nature, pour moi, c'est de la chlorophylle, c'est le vert. Les animaux, ça n'existe pas. Enfin, c'est dans les représentations de ce que j'ai pu regarder ou analyser. Donc, en fait, c'est un vaste sujet.
Oui, mais le problème, c'est comment on passe aux propositions. Parce que c'est à cause des propositions. Mon problème vient beaucoup moins de la définition. Bon, ça me dégage, je sais que c'est complexe, c'est pas important. Mais c'est passé aux propositions. Je comprends très bien, madame, par exemple, je comprends très bien que vous, dans une certaine mesure, par rapport à l'approche marketing, en fait, vous savez quoi faire de cette espèce d'incertitude qu'il y a dans la tête des gens à propos des questions de nature qui vont jusqu'à ne pas en parler quand on sait qu'on ne peut pas y accéder. Hein. Donc, ça, je le comprends très bien. Mais par contre, je comprends moins bien quand on dit, quand on en tire l'idée, par exemple, il faut créer des squares, ou il faut créer des parcs, ou il faut que l'agriculture périurbaine ait une fonction paysagère, etc. C'est ça, c'est ce passage-là que je comprends moins, si vous voulez. Parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment ce que les gens attendent. Voilà,
C'est plutôt ça, hein, que la définition de la nature. Je n'ai pas envie non plus de rentrer dans des byzantinismes.
Voilà, est-ce que c'est pas ce que les gens attendent, ou est-ce que les gens n'ont pas cette difficulté à exprimer exactement leurs attentes quand ils te disent les phrases très générales que citaient les gens de feu, c'est voilà, enfin, chlorophylle, c'est. Bon, il faudrait être très, très vigilant sur la classification. Je pense que derrière la stratification de David Camus sur les différents publics, il y avait quand même derrière une certaine difficulté à s'exprimer dans certaines classes. Les gens voudraient pouvoir avoir un usage de nature, mais ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes. Alors, on est confronté à un problème déjà d'expression avant de parler de définition. Alors, Nicole Mathieu interviendra dans cet atelier demain. Je ne sais plus si c'est deuxième ou troisième séquence. Une autre intervention ? Oui.
Excusez-moi, je voulais répondre. Je pense que dans la question que vous posez, c'est, enfin, du point de vue de l'historien, si je reprends le jardin haussmannien, il y a la vision qui est celle, je vais dire, pour simplifier, des élites qu'ils ont eux-mêmes du jardin. Et dans la question de la nature en ville, il y a toujours la volonté de la part de ces élites de considérer la nature en elle-même comme un bienfait et comme quelque chose qui doit moraliser les autres. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas en fonction du besoin ressenti ou non des personnes, mais en fonction d'un certain nombre d'objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Pour prendre simplement un exemple, très très trivial, les jardins publics sont munis d'urinoirs au XIXe siècle, ce qui est un énorme progrès sanitaire, mais qui tient aussi à la volonté d'éduquer le peuple, parce que le peuple fait ses besoins un peu n'importe où, et il faudrait qu'il utilise les urinoirs. Et on pourrait utiliser tout un tas de choses comme ça. Il y a un véritable projet dans le jardin haussmannien, qui est un projet d'éducation. Dans le cas, c'est la même chose pour le jardin ouvrier. Ça correspond à un besoin ressenti par les néo-migrants venant des campagnes d'avoir leur propre jardin et de produire leurs propres fruits et légumes. Mais il y a aussi la volonté de moraliser le peuple. Ce n'est pas un hasard si la volonté qu'il y ait des jardins potagers apparaît à peu près au moment où il y a la loi de 1906 qui interdit le travail le dimanche. Et ensuite, on a une réduction de temps de travail. C'est une énorme angoisse des élites, c'est que le loisir est dangereux. Et les ouvriers vont se retrouver à boire, ou alors pire, ils vont se retrouver à boire et à faire des réunions syndicales. Donc autant qu'ils soient dans leur jardin. Voilà, et je pense qu'il y a toujours cette ambiguïté dans la réalisation de l'espace vert, cette distance qui existe toujours aujourd'hui, en se disant, bon, on va créer un espace vert qui va faire que telle ou telle chose et qui correspond à des besoins rêvés ou imaginés. C'est pour ça que la notion de nature est elle-même très évolutive et extrêmement complexe à approcher.
Par rapport aux échanges qu'on a eus ce matin, Stéphanie Archbanus travaille à l'UNIVI. Je suis étonnée de l'intervention sur la classification de la clientèle, des locataires, du logement social par rapport au sujet de nature rêvée et ville vécue, parce que, sans être urbaniste, j'ai le sentiment que la ville, c'est pas une juxtaposition d'individualité. Et après avoir évoqué la façon de proposer des projets ou de consulter, sinon coproduire avec les habitants de l'urbanisme, arriver à proposer une classification qui réduit en quelque sorte les attentes et exprime les besoins sans qu'on ait même à les interroger spécifiquement sur les besoins. Donc ça renvoie à l'intervention qui vient d'être faite, où on disait au 19e, voilà, il faut apprendre aux gens à faire pipi. dit dans les jours humains, mais pas dans l'espoir. Il faut que les ouvriers soient occupés à cultiver leur jardin et comme ça, ils ne fréquenteront pas le cabaret. Mais finalement, sur la fabrication de la nature ou du rêve, ça refroidit quand même pas mal. Parce que si les gens ont des difficultés à se projeter, ça peut aussi, on l'a évoqué dans la première question, renvoyer à la façon dont ils vivent aujourd'hui. Et je ne suis pas convaincue que les six catégories de clientèle soient logées de façon similaire et que, puisqu'on a vu que selon qu'on est dans du collectif ou pas du collectif, on n'a pas le même rapport à l'envie de soi ou pas soi, ou de nature, etc. On peut aussi, en rentrant dans cette classification, se permettre un raccourci qui tendrait à éviter l'étape de concertation ou de fabrication collective qui peut apporter d'autres choses que juste la juxtaposition des envies individuelles.
C'est le côté réducteur de toute classification.
Oui, une segmentation n'a pas pour objectif de, comment dire, de faire de la concertation, des choses comme ça. C'est simplement une méthode pour mieux appréhender la diversité des attentes et des besoins. Point, c'est tout. Ça n'a aucun... à partir de là, on ne fait pas des règles. Simplement, on essaie, et là, je vous l'ai dit au départ, en fait, la segmentation s'adressait à un public donc, de 50 000 locataires. 50 000. C'est très difficile de faire des plans d'action et de faire des politiques, que ce soit des politiques de gestion ou d'adapter des produits pour 50 000 clients. Donc la solution de facilité, c'était de faire des classes. Point. Mais c'est une image, point. Mais quand on réhabilite un bâtiment, quand on construit, quand on fait de la concertation, c'est une autre approche. Les deux ne sont pas, rédhibitoires, en fait. C'est simplement un outil d'analyse et ça permet d'adapter des politiques de construction, ça permet d'avoir des politiques de gestion, enfin. Et ça permet d'éviter d'avoir un seul comportement. Parce que si on a six classes, on peut avoir six approches différentes. Et c'est déjà mieux qu'avoir une seule politique.
Bien. Il y a encore deux questions à prendre, je pense qu'on va élargir les droits.
Bonjour, la transition avec ma question est toute trouvée puisque je suis Sandrine Bailly et j'anime des réunions de concertation appliquées à l'aménagement du territoire. Donc, c'est une question l'espace naturel qui est un espace vert qui est souvent posé. Et je voulais juste revenir sur l'exposé de M. Coutefeu. À un moment, il y a un endroit dans les graphiques où on parlait parc essai état naturel. Parc essai état naturel en opposition avec le parc. Alors, les mots me manquent, je peux mais en position avec le parc domestiqué, et il n'y avait pas de pourcentage. Et je voulais juste savoir si, à votre avis, ça m'aurait intéressé pour le degré de demande en domestication de la nature. C'est-à-dire, est-ce que moi, je rencontre plutôt, dans les petites communes où je travaille, une demande de tourner vers un espace vert un peu, qui reste un peu sauvage. Ça dépend, hein, pas quand il est en ville, mais pour certains parcs, on n'est pas forcément pour les allées océaniennes, mais plus pour quelque chose d'un petit peu plus sportif, authentique.
Oui, effectivement. Donc on a un clivage relativement fort. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge, par exemple, dans les espaces naturels et ruraux, quel type d'équipement ou d'aménagement, en fait, on a dans l'esprit des personnes, le modèle parc est très puissant. Modèle parc haussmannien, les parcs existants, c'est-à-dire que les gens projettent effectivement un certain nombre d'équipements. Donc on a à peu près, j'allais dire, deux tiers des personnes qui vont dans les espaces naturels et ruraux qui veulent un certain nombre d'aménagements, style parking, aire de pique-nique. Et puis on a à peu près un tiers, en général, toujours un tiers qui veut laisser à l'état sauvage pas de panneaux, pas de balisage, pas de parking. Pas d'air de pique-nique, rien du tout, sauvage, pas d'entretien, rien du tout. Donc c'est deux tiers, plus ou moins domestiqués, et un tiers au sauvage, hein, en général, dans l'enquête que j'ai pu conduire. Hein. Donc un parc laissé à l'état naturel, avec une segmentation très forte sur l'âge. Cette demande elle est beaucoup plus jeune, entre guillemets, la tranche d'âge jeune, et au fur et à mesure qu'on regarde la manière de se segmenter, les personnes âgées sont plutôt des parcs propres, domestiqués, léchés, voilà.
Il y a une nouvelle question pour ouvrir le débat.
Oui, c'est une septième, le Conseil général de Guéraud, Gourmès. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Nous habitons la petite Europe et dans notre petit pays, il n'y a pas un hectare qui ne soit pas. Une intervention de l'homme n'existe pas. Dans d'autres pays, il n'y a pas assez de gens pour être sur tout le territoire et il y a des paysages complètement libres. Nous, on ne connaît pas ça et je crois qu'on connaît justement le stade ultime où l'homme intervient partout. J'ai un élu qui disait dans les gros, il n'y a pas de nature, il n'y a que des espaces naturels aménagés par l'homme. Et c'est vrai qu'un jour, la Terre sera comme ça partout. Donc il s'agit seulement d'aider maintenant, dans les espaces où justement ils sont très petits, qu'est-ce qu'on fait de la nature et comment on l'imagine? Est-ce qu'on estime que l'homme doit aller partout, partout, ou est-ce qu'on doit aller des endroits où on n'intervient pas? Et ça, dans une petite Europe, il n'y en a pas beaucoup.
Je voulais dire,
on voit l'ours, dans les premiers jours, c'est le loup.
Il y a un tiers de personnes qui sont pour ne pas d'aménagement. Par contre, lorsqu'on, sur d'autres enquêtes, on leur demande le paysage, décrivez-moi, pour eux, l'homme n'est pas présent. C'est-à-dire qu'à la limite, les gens ne se rendent pas compte qu'on a une nature qui est complètement artificialisée, y compris dans des forêts et autres. Ils ne se rendent pas compte, et pour beaucoup d'urbains, ne se rendent pas compte que finalement, le territoire est complètement quadrillé, avec des dimensions humaines, et, y compris même dans des parcs. Hein, vous faites, par exemple, dans des parcs, il y a peut-être des gens de Lyon, des pelouses fleuries dans les parcs. Donc, pour eux, c'est naturel, c'est spontané. Ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a un travail, il y a des boulots, il y a de la conception. Donc, c'est des choses qui sont perdues.
Il y a un micro.
Je suis arrivée un peu en retard, donc je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas intervenir sur des choses qui auraient déjà été dites. Pour compléter le regard sur les besoins, l'expression des besoins de nature des ménages, je pense qu'il faut regarder pas seulement l'habitat ou l'espace urbain de proximité, mais aussi les pratiques plus générales, notamment les pratiques de loisirs. Parce qu'en fait, chez beaucoup de ménages, sauf peut-être une partie de la population qui souffre de différentes formes d'enclavement, y compris d'un enclavement qui était peu mobile, mais sinon, si on regarde, il y a toujours des pratiques de loisirs, c'est-à-dire qu'on va chercher la nature dans des zones vertes, ou dans des parcs de loisirs, ou dans des bois, ou dans des espaces, et que ça, c'est quelque chose de...
Non, malheureusement, quand je vous interromps, c'est totalement un fantasme. Quand on...
Attendez, je veux juste terminer avant de répondre. Ma réflexion vient du fait que nous, on constate en région Nord-Pas-de-Calais une surfréquentation de l'ensemble de ces espaces, qu'il s'agisse d'un certain nombre de forêts, qu'il s'agisse des milieux du Maine, qu'il s'agisse de grands milieux à proximité des agglomérations, et qu'on a donc l'impression qu'il y a quand même une demande sociale forte qui s'exprime à travers des pratiques de loisirs, mais qui ne sont pas forcément dans la proximité. Donc comment on intègre aussi ce besoin de la nature?
Pour les activités, par exemple, sportives, parce que j'ai repris des enquêtes, notamment du Credo, qui a eu beaucoup d'enquêtes sur la forêt, les fréquentations et les loisirs, en fait, la plupart des pratiques en espace naturel et ruraux, c'est finalement relativement faible. Hein. C'est-à-dire que il y a un sociologue qui a travaillé sur cette dimension, ces gens qui est urbain, montre finalement, en fait, les gens vont s'y donner à la campagne, c'est plutôt on ferme boutique et c'est un peu le syndrome de l'isolement total avec finalement ces deux activités. Si je reprends des chiffres, parce que je n'ai pas la mémoire, mais par exemple tout ce qui est chasse, pêche, canoë, kayak, équitation, ski de fond, etc., c'est des pratiques relativement faibles en France, très faibles, dans les espaces naturels. Donc c'est plutôt, on va dans les espaces naturels, on va dans la campagne, c'est surtout pour la promenade, hein, numéro un, promenade.
Oui, mais tout à fait, sur la promenade, je rejoins, mais vu d'un autre point de vue, les espaces aménagés, moi je fais le constat, par exemple, sur la, on a une des réserves naturelles de l'Argent, c'est la réserve du Bois-Mélin, c'est 500 000 visiteurs par an, ce qui est énorme, c'est presque trop d'ailleurs. Donc il faut qu'on ait aussi capacité à gérer ces choses-là. Et effectivement, ce que les gens vont chercher, c'est un rapport à la nature que je ne sais pas définir, mais je pense que ça passe par une vision, un paysage, par des odeurs, par peut-être le fait d'entendre des oiseaux. Et ça, c'est des choses qu'on peut peut-être retrouver et ramener aussi en ville, même si les gens ne l'expriment pas.
Et c'est très faible. On a regardé, par exemple, sur l'agglomération de Lyon, on a les Monts d'Or. Les Monts d'Or, c'est pas un parc, il n'y a pas de label parc. C'est un espace vert à proximité de Lyon. Et on a voulu savoir quel était et la fréquentation, on constate que, par exemple, sur les monts d'Or, qui est complètement un espace naturel, on a à peu près la fréquentation d'un square, c'est-à-dire un square lyonnais. Les fréquentations, elles sont liées à des labels. Dès lors que vous faites des réserves, des parcs, vous mettez des labels, des squares, etc., vous allez avoir du monde, parce que le label, la nature a besoin d'être labellisée pour beaucoup. On a peut-être des schémas, des modèles. Donc le fait que vous ayez, par exemple, dans les espaces ou des réserves naturelles, si vous avez une réserve naturelle, pour la plupart des gens, une réserve naturelle, c'est plus beau qu'ailleurs, c'est mieux qu'ailleurs, donc j'y vais. Alors qu'à quelques mètres de là, il y a les mêmes espèces, souvent les mêmes aspects. Donc il y a un effet label, il y a un effet d'écho, un effet de marketing qui est effectivement important, et presque un effet bouton dans beaucoup d'espaces.
Bien, il nous faut conclure, ça se bouscule derrière la porte, ça nous fait remarquer qu'il faudrait un peu mieux libérer la pièce depuis un moment. Merci pour la qualité des intervenants, merci pour la qualité de l'auditoire, qui a su poser vraiment le problème comme il le fallait. Rendez-vous demain matin pour la suite de Nature révélée vécue sur le thème la réponse des marchés face au contexte et comparaison internationale. Nous aurons une table très intéressante. Certes, nous n'aurons pas la présence de Saïd Albi sur Wunderwasser, mais on mettra peut-être quelques photos pour se remémorer ce grand homme. Merci, bonne soirée.
Ça va, t'as pas eu trop de mal?